Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire. Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, j'espère que vous allez bien. Marianne Paquette derrière ce micro, je vous accompagne avec Jean-Sébastien Laliberté, lui derrière sa console, à travers cette émission de C'est bon pour la santé sur Canal M. En janvier dernier, la Tablée des chefs, une organisation qui est assez connue ici au Québec, et si vous ne connaissez pas, ben vous en entendrez parler en deuxième partie d'émission avec François Desroches, lui directeur de la formation culinaire à la Tablée des chefs. Mais vous dire que en janvier dernier, donc, il recevait un prix pour leur programme Les Brigades culinaires qui favorisent le transfert des connaissances auprès des jeunes qui ont entre 12 et 17 ans et qui leur permettent de développer leurs compétences culinaires, de se responsabiliser dans leurs choix alimentaires, de renforcer l'esprit d'équipe, leur confiance en soi, donc finalement de devenir en meilleure santé. Et je vous rappelle que mars est le mois de la nutrition, donc je poursuivrai cette série d'entrevues avec M. Desroches en deuxième partie d'émission. Mais d'abord, pour le docteur Gaétan Brouillard, nos meilleurs alliés en santé, ça se retrouve souvent dans des gestes simples du quotidien, des éléments que l'on retrouve près de nous, dans la nature, et dans l'écoute qu'on a de soi-même et dans la confiance qu'on a envers notre intuition. Avec son livre « La santé repensée », c'est publié, oui, aux éditions de l'Homme, il propose un regard qui est différent sur la santé, plus globale, et je lui parle à l'instant. Docteur Gaétan Brouillard, bonjour.
Oui, bonjour.
Le sous-titre de votre livre est « Cessez de chercher la pilule miracle, agissez différemment ». Or, on apprend dans ce livre que les Canadiens dépassent annuellement plus de 34 milliards en médicaments pour quelque chose comme 500 millions d'ordonnances. Pour vous, ça semble être une solution simple, un soulagement temporaire. Comment il faudrait aviser les gens d'aller vers d'autres solutions? D'abord, ce que vous proposez, c'est d'identifier la cause de nos soucis de santé, mais ça se fait comment, ça?
Oui, oui, c'est ça. Actuellement, si on regarde la médication, la plupart de nos médicaments sont là pour traiter ce qu'on appelle les maladies chroniques. C'est-à-dire que, bon, on est diagnostiqué diabétique, maladie cardiaque ou un peu plus tard Alzheimer, démence, ou même dépression, comme beaucoup de gens sont pris actuellement. Et ce qu'on a comme solution, souvent, c'est une médication qui va temporiser, qui va soulager. Mais on ne peut pas dire, tiens, prenez ça et votre diabète est guéri pour maintenant, pour les prochaines années à venir. Donc, on a une médication qu'on doit assumer pendant tellement longtemps que finalement, il faut voir, est-ce qu'on n'aurait pas des alternatives à ça? Parce que les effets secondaires d'un médicament, puis des fois d'un deuxième et d'un troisième qu'on rajoute, sont pas non plus sans avoir des répercussions sur l'ensemble de notre système. Et tout à l'heure, tu parlais de 34 milliards, effectivement. C'est énorme oui. en coût d'investissement. Puis on voit actuellement, les gouvernements font des pieds et des mains pour essayer de retrouver un équilibre budgétaire à travers un système de santé qui est de plus en plus dispendieux.
Mm-hmm.
Et je dirais qu'actuellement, commencer à faire une espèce de ménage en soi pour essayer d'avoir une médication qui soit beaucoup moins lourde, ça serait facilement gagner des milliards au bout de la ligne. T'sais, déjà là, au niveau de consommation, est-ce qu'il y a l'utilité de prendre des médicaments pendant des années pour certains cas? Je ne sais pas qu'il faut se débarrasser des médicaments, mais avec le médecin, revoir est-ce que tout ça est nécessaire. Et qu'est-ce qui pourrait faire justement un substitut à ça? Bien, c'est commencer à gérer notre équilibre au niveau, ce que j'appellerais la notion de notre alimentation, la notion de l'exercice, la gestion de notre stress également. Parce que beaucoup d'études actuellement nous disent que si on fait une bonne mise au point par rapport à un style de vie amélioré, on pourrait diminuer de beaucoup la quantité de ces maladies chroniques pour lesquelles on est affligé actuellement.
Et dans votre livre, on apprend que l'alimentation, ça a un fort impact sur notre santé.
Absolument, oui. Tout à l'heure, on parlait par exemple de dépression. Oui, la dépression peut se présenter beaucoup plus facilement chez des individus dont l'alimentation est perturbée, par exemple. On sait que le groupe des vitamines B sont des précurseurs à ce qu'on appelle la sérotonine, qui est un neurotransmetteur tellement important, ou même pour le sommeil, qui est la mélatonine aussi. Donc, il y a des choses simples qu'on peut aller chercher de plus en plus. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la science elle-même aujourd'hui qui nous dit ces choses-là. À travers le monde, c'est plein de chercheurs qui nous prouvent les avantages de l'alimentation. Et on va même plus loin, on dit que l'alimentation, ça peut influencer même ce qu'on appelle la qualité génétique. Donc, il n'y a plus nécessairement cette fatalité génétique à dire « Ah, mon père était diabétique et donc je serai diabétique ». Non, absolument pas. On a les preuves comme quoi si on fait une alimentation saine maintenant, c'est des choses qu'on va pouvoir passer au travers sans nécessairement avoir la manifestation, même si on a la génétique qui pourrait prédisposer vers ça.
Donc, un rôle de prévention.
Absolument. Oui, je pense qu'on est à l'heure où la prévention, il faut vraiment s'en occuper, autant responsabiliser le patient lui-même, donc à se prendre en charge. Et comme je dis, c'est que, donc, réveiller notre médecin intérieur, si on veut, et ça prend des outils, ça prend des techniques. Et le médecin également de remettre cette emphase sur les patients parce que, le mode d'emploi, souvent, c'est le médecin qui va le définir et qui va l'initier. Et c'est important que la médecine, de plus en plus, nos médecins généralistes, insistent sur le fait d'avoir une gestion saine de notre santé. Et justement, le livre fait justement cette vision globale qu'on doit adopter, qui va réconcilier à la fois le corps, le cœur et l'esprit. Parce que vous allez voir, tout au long du livre, il y a des exercices, il y a des attitudes mentales aussi dans lesquelles on va développer pour avoir justement cette notion de santé. Donc, on ne parle pas juste de maladie dans le livre, on parle comment garder la santé.
Oui, et vous nous parlez aussi, parce que vous parliez de l'esprit, du corps, finalement, c'est ce qui est une santé plus globale, et vous parlez peut-être plus vers la fin du livre de notre esprit, à quel point il peut influencer notre corps, donc notre santé.
Oui, puis même, je fais référence justement à des études qui avaient été faites sur même le vieillissement a une composante qu'on appelle mentale, c'est-à-dire que le fait qu'on sait qu'on est rendu à tel âge, c'est comme si on imprime à nos cellules, dire, ben écoute, là, t'es rendu à 75 ans, t'es rendu vieux, là. Et à quelque part, ça a un impact sur notre système cellulaire même. Il y a tellement d'intéressantes études scientifiques qui ont prouvé que si on vivait comme si, par exemple, on avait 20 ans antérieurement, il y avait le Dr. Langer, justement, de Harvard, qui avait démontré ça il y a plusieurs années, elle avait pris des gens de 75 ans puis les avait replacés dans une période 20 ans auparavant. Fait que pendant quelques semaines, ces gens-là étaient invités à demeurer dans un endroit où l'ameublement, les journaux, la radio, leurs propres photos, tout ça datait de 20 ans auparavant. Et les gens n'avaient pas le droit de parler de ce qui se passait dans la vie de maintenant. C'est que tout était reporté comme si c'était 20 ans auparavant. Et à sa grande surprise, ces gens-là ont commencé dans les jours qui ont suivi à démontrer déjà des signes anti-vieillissement, que ce soit au niveau du discours, au niveau de la démarche, de l'attitude, la façon qu'ils se tenaient, etc. Et elle a été vraiment estomaquée de voir ça. Elle sait qu'elle en a fait un livre et elle a continué depuis ce temps-là à faire beaucoup d'études sur justement le vieillissement et la capacité mentale de gérer ça. On s'en est servi même pour les athlètes. Il y a des athlètes chez qui on fait, par exemple, de l'imagerie mentale. Mm-hmm. Et la plupart de nos athlètes olympiques s'en servent aussi. C'est-à-dire qu'on peut visualiser déjà le parcours qu'on aura à faire dans des belles conditions, dans notre meilleure condition pour que finalement le résultat au bout de la ligne soit supérieur. Et c'est quelque chose que nous aussi, le commun des mortels, on pourrait justement être habile à le faire. Donc, la santé se prévient, et je pourrais dire quand même que la maladie est apparente, on pourrait probablement avoir des impacts positifs sur la guérison, beaucoup moins long, beaucoup moins profonde, si on fait des exercices de visualisation, de prévision, d'imagerie mentale également.
Vous parlez également de méditation en ce qui a trait à la gestion du stress.
Oui. Alors ça, je ne saurais trop insister là-dessus. Je pense qu'on sait qu'aujourd'hui, on vit dans un monde de stress. Là, c'est comme on a qu'à regarder même nos jeunes à l'école. Ils sont même en maternelle et ils sont stressés, les jeunes. L'école leur fait peur. Ils ont 12-13 ans, sont à l'école, ils ont peur des examens. Quand j'ai fait des persévérants l'an passé, justement, une des choses que j'ai remarquées, les jeunes de 13 ans ne dorment plus. Puis je vais voir pourquoi vous dormez plus. Ils sont stressés. Ils sont stressés par la performance scolaire qu'ils auront à déployer. Ils sont stressés par ils n'ont pas pu terminer un devoir ou les parents sont séparés, etc. De sorte que le stress, c'est quand rendu un mode de vie aujourd'hui. Mais c'est pas vrai que le stress ne nous infecte pas d'une certaine façon. Et on a prouvé aujourd'hui que le stress a un pouvoir inflammatoire sur nos cellules. C'est-à-dire que le stress pourra donc amener dans le corps des perturbations biochimiques entraînant les maladies de cœur, entraînant voire même peut-être le cancer, le diabète, maladies vasculaires, etc. On sait l'eczéma peut avoir un gros impact aussi avec le stress. Donc, je pense que être capable pour un 10 ou 15 minutes par jour de faire une halte, s'asseoir tranquille, fermer les yeux dans un endroit tranquille, ne serait-ce que ça, prendre conscience d'où on est, respirer lentement, c'est effectivement très bénéfique. Et ça permet même d'être plus productif. En Californie, ça fait longtemps qu'ils font ça, même dans les grands centres ou même des grandes compagnies. Les gens ont un temps de repos l'avant-midi ou l'après-midi pour lequel ils peuvent se recueillir également.
Mm-hmm. Docteur Guétin Brouillard, vous êtes médecin conseil à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Vous dirigez une clinique de santé globale. Vous êtes médecin, donc scientifique. Et pourtant, dans votre livre, vous parlez de notre intuition comme un allié à notre santé.
De notre intuition?
De notre intuition.
Oui, oui. Oui, notre intuition. Absolument. Oui, je pense que c'est pas parce qu'on est scientifique qu'on ne devrait pas avoir d'intuition. L'intuition est c'est un être humain, c'est une entité qui n'est pas isolée de son environnement. C'est pas isolé de la personne avec qui, par exemple, quand quelqu'un s'assoit en face de moi, il y a une interaction veut pas qui se passe dans ce qu'on pourrait appeler une espèce d'aura, si on veut, hein. Vous influencez l'autre juste à la regarder. Il y a un jeu qui se passe aussi à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que je fais tellement d'importance à l'écoute dans un premier contact avec la personne. Parce que souvent, il y a un paquet de diagnostics qu'on peut arriver en bout de ligne. Il y a peut-être ça. Mais au bout de la ligne, quand on prend le temps de s'asseoir et de s'imprégner, si on veut, de la relation avec l'autre personne, il arrive souvent que des choses vont comme carrément s'enlever en disant non, ça peut pas être ça, ça devrait pas être ça, ça devrait pas être ça. Et donc, ce côté intuitif-là est excessivement, à mon avis, présent aussi.
Mm-hmm.
Et je pense que, on parle d'ailleurs d'intuition, si on regarde même Einstein, c'est bien dit, lui-même nous disait que toute la loi de la relativité, il l'avait déjà intuitionné, je pense, 10 ans auparavant, et ça a pris 10 ans à l'approuver.
Oui.
Mais déjà, il avait su que c'est ça, voici les paramètres qu'il a, mais il n'était pas capable de le prouver encore. Mais il y a quelque chose qui lui avait démontré que ça en allait vers ça.
Il y a cette anecdote formidable dans votre livre où une jeune fille arrive avec son père à l'hôpital pour vous rencontrer. Le papa a des hallucinations, il voit la Sainte Vierge, et sa fille vous dit, mais il a toujours eu une bonne santé mentale, c'est arrivé à peu près du jour au lendemain, je ne comprends pas. Bien sûr, votre premier réflexe est de penser, j'aimerais qu'il rencontre un psychiatre, mais vous continuez à investiguer, vous vous rendez compte que c'est une tumeur qui créait ces hallucinations chez cet homme. Et ça, c'est une anecdote que j'ai trouvée fascinante. J'avais envie de la raconter aux auditeurs, peut-être pour piquer leur curiosité à entrer en contact avec votre livre. Ce qui m'intéresse, c'est comment on peut développer cette intuition pour nous-mêmes.
Ah oui. Pour développer l'intuition, par exemple, dans ce cas-là, comme tu dis, ça aurait été tellement simple de dire, ben non, c'était un cas psychiatrique, tu sais, voir la Sainte Vierge et voir des éléphants roses qui se promènent dans le salon, là. Écoute, pas besoin de penser ben plus loin, c'est un cas psychiatrique.
Oui.
Non. Et comment on peut finalement intuitionner, si on veut développer ça? Ben, c'est à travers ce que j'appelle une présence attentive et une présence fraîche. C'est-à-dire qu'il faut enlever la notion dans ma tête que, par exemple, voir des éléphants roses égale psychiatrie, ça, c'est la première chose. Et tout ce que j'ai devant moi, c'est quelqu'un qui voit des éléphants roses. La chose, faut que je dise aussi, bon, il me le dit ça, la jeune fille le répète, et donc, faut que j'adhère à cette croyance-là, il les voit. Et donc, mon prochaine étape, c'est de voir pourquoi ça arrive.
Mm-hmm.
Sinon, c'est avec ce qu'on connaît déjà, la plupart du temps, on est bloqué par nos croyances, par nos habitudes, déjà sur la vie, tu sais. Ça aurait été tellement plus simple de dire, oui, c'est un cas psychiatrique, c'est fini, cas suivant. Alors que lorsqu'on se laisse un premier à l'écoute, et plus tu t'assois avec, puis tu entends l'autre personne, à un moment donné, tu te dis, non, il a l'air vraiment bien d'aplomb à part ça, là. J'ai pas de raison de ne pas croire qu'est-ce qu'il m'apporte, tu sais. Fait que c'est pas l'événement en soi qui devrait primer. C'est la personne qui est assise avant moi qui fait que ça a l'air d'une, comme je dis, ça a l'air d'un événement tellement comme banal, mais ça devient un événement extraordinaire, des fois, à force d'écouter qu'est-ce qui se passe à travers ça.
Et il faut arriver à le faire avec soi-même. C'est là où je voulais en venir. C'est pas toujours évident. Et ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Souvent, ben, on passe à côté de ce chemin-là pour plutôt faire des choix en allant vers une médication.
Oui, oui.
En fait, une solution qui est rapide.
Oui, absolument. Oui, on est porté souvent parce qu'on connaissait. Je pense qu'on tombe dans le jeu du familier, hein.
Ouais.
Et à partir de ce moment-là, tout ce qui nous est familier, c'est comme connu d'avance. Et donc, on peut tirer tout de suite une conclusion. Puis c'est souvent des conclusions hâtives à ce moment-là. Et pour ne pas tomber dans ce piège-là, justement, c'est peut-être de voir que chaque événement, chaque personne que l'on rencontre, un peu comme si c'était la première fois qu'on les voit. Tu sais, c'est pas parce qu'on connaît tel individu qui se présente, on dit « Oh, on connaît lui, Jacques, est toujours pareil. » Puis là, à partir du moment où on connaît quelqu'un, bien souvent, on risque de ne pas l'écouter pour ce qu'il est vraiment et ne pas reconnaître non plus qu'est-ce qui peut se passer de nouveau chez cette personne-là.
Mm-hmm.
C'est le danger des fois, même, je me souviens à l'urgence, des fois, on devenait comme tellement familier avec quelqu'un qui nous rapportait une douleur bizarre dans laquelle on était plutôt porté à croire, ben c'est la même chose qu'elle avait le mois passé. Des fois, on disait à un confrère, on dit, tu peux-tu examiner madame une telle, là? C'est parce que pour moi, je suis pas sûr que je vais nécessairement, elle m'est trop familière, cette personne-là.
Mm-hmm.
Fait que déjà, c'est déjà une bonne façon de dire, écoute, moi, je me retire et je laisse ça à un confrère, par exemple, pour qu'il aille plus loin ou qu'il voit une autre façon, peut-être, une autre vision de cette personne. Mais sinon, on peut le faire nous-mêmes aussi. Et pour ça, ça demande un effort. J'avoue que c'est pas évident de laisser tomber un peu nos croyances par rapport aux gens.
Mm-hmm.
On a comme des lunettes, hein, qu'à chaque fois qu'on voit les gens, on voit les gens avec nos propres lunettes, finalement.
Si, en terminant, Dr. Guétin-Brouillard, si l'on veut prendre en main notre santé, parce que ce qu'on apprend à travers votre livre, c'est qu'on est les premiers responsables, quels sont les petits gestes simples que l'on peut faire?
OK. Je parle beaucoup d'environnement, finalement.
Oui.
Comment notre environnement... Être conscient, d'abord, qu'on n'est pas des êtres isolés. On est influencés et on influence notre environnement aussi. Que ce soit notre environnement, par exemple, alimentaire, donc aller chercher qu'est-ce qu'il y a de mieux dans l'alimentation, et sans que ce soit quelque chose de fastidieux, là, tu sais, c'est pas une question de se mettre au régime des diètes. La vie est là pour être aussi agréable, donc pour bien manger, c'est important aussi. Il y a des choses, des fois, on a des choix à faire, par contre. Tu sais, ça, c'est vraiment, vraiment pas bon dans mon cas, donc je dois l'éliminer. Et participer tous les jours aussi, bien tous les jours, ou au moins toutes les semaines, une ou deux fois, de l'exercice physique, des fois diminuer un peu la course en automobile, puis marcher un peu plus quand c'est possible. Là, surtout, le beau temps s'en vient. Bon, on en profite pour marcher plus dehors. Et la gestion du stress, on a parlé tout à l'heure, donc la méditation, prendre à tous les jours. Ça, c'est quelque chose qu'on devrait faire tous les jours. C'est pas quelque chose à l'occasion. Mais tous les jours, on est capable de se donner un 10 minutes. C'est en rapport avec soi, finalement. C'est un cadeau qu'on se fait. Et après ça, c'est ce que j'appellerais l'environnement mental, c'est-à-dire c'est quoi qui habite notre tête, quelles sont nos pensées, nos croyances, etc. Donc, être conscient de ça aussi, et on peut voir qu'en changeant ces comportements, ces croyances-là, c'est notre vie, notre santé aussi qui peut avoir des changements très positifs.
Et on peut lire « La santé repensée, cessez de chercher la pilule miracle, agissez différemment ». C'est écrit par le docteur Guétin-Brouillard. Vous êtes également médecin conseil à l'hôpital Maisonneuve, oui, Rosemont, et vous dirigez la clinique médicale de santé globale. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous parler aujourd'hui.
C'est moi qui vous remercie.
Au revoir.
Au revoir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_m.
Eh bien, on a du mal à joindre François Desroches du côté de la Tablée des chefs. On vous propose donc en rediffusion une entrevue avec Catherine Chevrette, elle présidente et cofondatrice de la Fondation Justine et Florence, une fondation qui a pour mission d'offrir aux jeunes autistes québécois l'accès à une tablette électronique. Bonjour Catherine Chevrette.
Bonjour madame.
Vous êtes présidente et cofondatrice de la Fondation Justine et Florence et mon petit doigt me dit la maman de Justine, c'est
exactement
ça? Exactement. Vous avez créé l'été dernier la Fondation Justine et Florence. Quelle est la mission, je dirais, maintenue ou tenue par la Fondation?
Bien, la Fondation existe depuis, je vous dirais, l'été 2013.
Okay.
Le lancement officiel de la Fondation a eu lieu en janvier dernier, en janvier 2014. Alors, on a eu une année 2014 bien remplie, mais l'objectif de la Fondation est de promouvoir, faciliter et contribuer au développement social et intellectuel des enfants atteints du trouble du spectre de l'autisme. Ce que ça signifie, mais concrètement, c'est que beaucoup d'écoles tentent d'intégrer les enfants atteints d'un trouble du spectre de l'autisme. Et malheureusement, ils n'ont pas le matériel, les installations nécessaires. Donc, la Fondation a pour mission de pallier ces différents manques par le financement de projets spéciaux pour permettre aux enfants, justement, d'atteindre leur plein potentiel à eux en termes de développement.
Et l'un de vos projets spéciaux, c'est le lancement de cette campagne-là, fin janvier, pour offrir des tablettes à des jeunes qui vivent avec le trouble du spectre de l'autisme.
Exactement. En janvier 2014, on a fait un gros lancement qui est la campagne « Une tablette pour un sourire ». Donc, c'était le lancement, mais on est allé prudemment. Nous sommes allés prudemment parce qu'on voulait y aller avec un projet pilote au préalable. Mm-hmm. Donc, la campagne vise à financer l'acquisition de tablettes électroniques pour les élèves du primaire et du secondaire qui fréquentent, bien entendu, les classes spécialisées du réseau scolaire du Québec. Alors, à terme, parce qu'il y a des grandes nouvelles qui s'en viennent pour la Fondation, là, dans les prochaines semaines, avec une autre campagne de financement sous le même thème, mais à terme, notre objectif serait de fournir deux tablettes à la disposition des élèves, là, deux tablettes par classe spécialisées au Québec.
Et justement, parlons-en de ce projet pilote-là, parce qu'il s'est installé dans 6 classes spécialisées, si je ne me trompe pas, de la Commission scolaire des Patriotes en Montérégie.
Oui.
Ça a donné quoi? Quel a été le retour des enseignants, des intervenants?
Bien, c'est sûr que c'était à leur demande. Hein. Quand on a débuté la Fondation, on demandait quels sont les besoins en classe, de quoi vous avez le plus besoin. Et je vous dirais que quasi à l'unanimité, ils nous ont répondu, on veut des tablettes électroniques. Alors, qu'on ait répondu principalement le pavillon Marie-Victorin de la Commission scolaire des Patriotes en Montérégie est le seul endroit où c'est une école qu'avec des classes spécialisées pour enfants autistes. Parce que dans la plupart des écoles au Québec, il y a une ou deux classes ou plus de classes, comme par exemple à la polyvalente de Mortagne à Boucherville, il y a, je crois, 6 ou 8 classes. Alors, mais cette école-là, c'est que des classes pour ces enfants. Et l'accueil a été... disons qu'on était accueillis à bras ouverts. Ils étaient tous contents, tant les enfants, les enseignants, que le personnel professionnel qui accompagne les enfants dans leur évolution.
Et Catherine Chevrette, pourquoi des tablettes? Qu'est-ce que ça permet à ces jeunes-là? Qu'est-ce que ça développe également?
Il faut comprendre que moi, dans un premier lieu, je suis une maman. Hein?
Oui.
Et non une scientifique. Donc, je ne prendrai pas le risque de dire des choses qui ne sont pas vraies. Par contre, je suis devenue familière avec l'utilisation de la tablette à des fins pédagogiques, je vous dirais, par l'utilisation que nous, on en a fait à la maison. Et rapidement, on a pu constater les bénéfices de l'utilisation de la tablette. Il faut comprendre que les enfants atteints d'un TSA, d'un trouble du spectre de l'autisme, ont de la difficulté à apprendre avec les méthodes traditionnelles. Donc, ils réagissent mal parfois à certains stimuli, que ce soit auditifs, visuels, et ils réagissent mieux à d'autres stimuli. Et la tablette, la beauté de la chose, c'est qu'on le voit, on a une réponse immédiate aussitôt qu'on fait un exercice, soit en mathématiques ou en français, ou tout simplement dans l'évolution du langage. Donc, c'est plus intéressant pour l'enfant d'avoir une récompense, un stimuli rapide. On a vu rapidement que les enfants avaient un meilleur degré de concentration. Bien entendu, ces tablettes-là sont utilisées sous supervision du personnel enseignant. On ne les laisse pas jouer avec les iPads. Ils sont supervisés et à petite dose. Et on voit vraiment que naturellement, certaines difficultés diminuent en termes de concentration ou tout simplement aussi, les enfants autistes souvent ont de la difficulté avec leur motricité fine, donc tenir un crayon. Mm-hmm. Alors, quoi de mieux que d'écrire directement avec son doigt sur l'écran? Donc, ça leur permet de les stimuler visuellement, auditivement et même artistiquement parce que certains enfants vont y aller plus par le dessin que par d'autres méthodes. Donc, oui, on le voit, le bénéfice. Les profs sont super contents. Les enfants, quand on leur met les tablettes entre les mains, ils ont des sourires. Et si vous allez sur notre site web de la Fondation, vous allez voir qu'il y a des vidéos témoignages de parents. Et c'est assez touchant. On voit qu'un père qui a vu les tablettes utilisées à l'école a tout de suite vu un changement, là, une mère aussi rapidement pour l'enfant.
www.unetabletteunsourire.com.
Exactement.
Mm-hmm. Les enseignants, le personnel scolaire devra être formé aussi. J'imagine que ça fait partie de la campagne d'amasser des sous aussi
oui.
pour leur offrir une formation.
La formation vient, faut comprendre que, bon, nous, il y avait certaines problématiques là, en termes contractuels avec les commissions scolaires. Des fois, au Québec, on a de la difficulté à faire les choses simples. Quand ça peut être compliqué, pourquoi pas le faire compliqué? Faut comprendre que les écoles achètent le matériel et la Fondation rembourse. Bon, c'est pour des raisons là, de budget et certaines, je vous dirais, procédures bureaucratiques. Mm-hmm. Et les gens de qui on achète les tablettes fournissent la formation. Donc, c'est une entente que l'on a avec eux. Je nommerai pas le fournisseur, mais tout le monde l'a deviné.
Bien sûr.
On n'a pas le droit de le nommer. Et c'est de cette manière-là. Par contre, je vous dirais que une tablette électronique, là, c'est assez instinctif. Donc,
oui,
le but est de trouver les bonnes applications. Et sur notre conseil d'administration, on a la chance d'avoir une merveilleuse ergothérapeute qui s'y connaît très bien en application et qui travaille conjointement, régulièrement, avec des équipes de professionnels des différentes commissions scolaires, donc des orthophonistes, des orthopédagogues, afin de déterminer quelle application sera le plus utilisée ou sera le plus efficient chez certains groupes d'enfants. Ce ne sont pas les mêmes applications en maternelle qu'en secondaire 3 et dépendamment du niveau de langage ou du degré d'apprentissage de l'enfant. Donc, tout ça se fait en équipe.
Mm-hmm. Et en terminant, Mme Chevrette, 3500 tablettes, c'est votre objectif.
Oui.
Vous êtes rendue à combien?
Je vous dirais que si tout va bien, d'ici la fin de l'année, nous pourrions distribuer environ 200 tablettes de plus.
Bien, on vous le souhaite et on suivra votre évolution. Catherine Chevrette, présidente et cofondatrice, oui, de la Fondation Justine et Florence. Salutations à
Merci.
Justine.
Merci beaucoup.
Bon après-midi.
Au revoir.
Eh bien, c'est la fin de cette émission de C'est bon pour la santé. Marianne Paquette au micro, Jean-Sébastien Laliberté derrière la console. Merci beaucoup d'avoir été là. Et nous, on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.